France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Pierre Cardin, qui incarne partout dans le monde l'art du vêtement et le goût français. Il a habillé les Beatles, ouvert les portes de la Chine et de l'URSS, mais Pierre Cardin est aussi un amoureux fou du spectacle sous toutes ses formes, chansons, opéra, comédie musicale. À 95 ans, il nous fait l'amitié de se confier à notre micro. En fin d'émission, les musiques légères de Serge Laïc, mais pour bien commencer, préparons-nous la voix par quelques vocalises. Qu'elle est fraîche et printanière, la voix de Maddy Mesplé dans cet air de Manon Lescaut d'Aubert. Il est d'ailleurs question du printemps, donc dans cet air d'entrée de Manon qu'on vient d'entendre. Maintenant, la voix est prête et juste avant de retrouver Pierre Cardin, je vous propose encore quelques mouvements de gymnastique sur un rythme, bien sûr, de mambo.
We'll be right back.
amateurs auront reconnu l'orchestre de Pérez Prado dans ce morceau intitulé Paris. Bah oui, les paroles c'était Paris, hein, la France, vous l'avez entendu avec cette voix doucereuse. Un enregistrement de 1958.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et oui, Paris, la France, quelle meilleure incarnation que mon invité aujourd'hui, même s'il est né en Italie en 1922, depuis les années 40, c'est l'une des plus grandes figures de la mode à travers le monde, mais c'est aussi un passionné de spectacle musical, que ce soit dans son espace Cardin à Paris, chez Maxime, où on donne des spectacles, au Festival de la Coste, où il nous présente chaque année des opéras. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Pierre Cardin.
Que chaque femme, qu'elle soit dans tout son phare,
vierge folle, vierge sainte, Jeanne d'Arc, Putifard,
de son flamme,
que parfaitement différents, c'est les bons soleils de l'âme,
ou de son tempérament.
Celle-ci, féline comme chatte, miaou, miaou, petit mimite, que son fol amant la flatte, comme ça, comme ceci.
Celle-là préfère au bout la bête, et même elle vous dit merci,
à bout de moi ou de sa rate, comme ça, comme ceci.
De baiser plein d'ivresse, d'autres de savants de caresse
qui lui font pousser des cris.
Oh oui, tout à...
Mais toute femme ou maîtresse, qu'on soit laid comme lui,
qu'on soit joli
comme moi,
on les prend avec des espèces. Comme ça, comme ceci.
Depuis qu'Ève écoutant le serpent séduisit cette bonne patte d'Adam, l'homme ne sait jamais ce que trame. Cœur de femme,
femme, femme, femme, femme.
Elle change du soir au matin. Hier ne ressemble pas à demain. Pas moyen de comprendre les cœurs féminins. Jamais rien, rien, rien.
Oh les femmes,
oh les femmes,
oh les femmes,
oh les femmes,
oh les femmes.
Depuis qu'elle écoute le serpent, séduisit cette bonne patte à dents. L'homme ne sait jamais ce qu'elle prend. Cœur de femme, 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 femme.
Elle change du soir au matin. Cette bonne patte d'Adam,
femme,
l'homme ne sait jamais ce que trame.
Femme, 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 femme.
Elle change du soir au matin. Hier ne ressemble pas à demain.
Pas moyen de comprendre le cœur féminin. On n'y va jamais rien, rien, rien.
Bonjour Pierre Cardin.
Bonjour.
Je voulais vous accueillir, si j'ose dire, avec un peu de musique d'opérette de la Veuve Joyeuse, parce qu'on sait que le dernier acte de ce chef-d'œuvre se déroule chez Maxim's, votre maison. Et vous-même, qui êtes un grand mécène de la musique, aujourd'hui encore, vous soutenez des spectacles musicaux dans la maison.
Les comédies musicales, plus exactement.
Ouais.
Je suis très un fan des comédies musicales, ayant vu pas mal de comédies à Londres et à New York.
Ouais.
Et c'est une émotion d'aujourd'hui qui était plus moderne que l'opéra. D'ailleurs, tous les opéras étaient des comédies musicales. Si on va Rossini, c'est de la comédie musicale en réalité.
C'est vrai. Mais chez Maxim's en particulier, vous avez même toute une série de petits spectacles organisés par M. Chambre, là, des divertissements musicaux.
Beaucoup même, beaucoup. Oui. J'ai une dizaine de petits spectacles que j'ai montés. J'en ai fait un petit théâtre de théâtre Maxim's, où l'on chante évidemment les chanteurs contemporaines.
Voilà, et ça c'était aussi une très grande réussite.
C'est une très grande réussite, je ne m'y attendais pas du tout, et finalement ça s'est bien réalisé.
Mais alors ça démontre une chose, c'est que le grand homme de la couture, de la mode que vous êtes, a toujours été aussi un passionné du spectacle et de la musique. Ça a été, on peut dire, l'autre versant de votre vie.
Moi, j'allais beaucoup au concert tous les samedis, parce que c'était moins cher que les dimanches, au Théâtre des Champs-Élysées. Donc j'ai suivi pas mal de toute une partie de ma jeunesse en allant en concert, bien tous mes classiques, Beethoven, Bach, Mozart, etc. Mais enfin après j'ai suivi les contemporains.
Oui, mais vous avez eu cette âme de mécène, toujours.
Enfin mécène, oui, c'est moi qui payais.
Oui, c'est ce qu'on appelle
un mécène. Mécène.
Ou d'organisateur de spectacle.
Oui, comme j'ai eu la chance d'avoir quand même des théâtres assez tôt et assez vite, et que je les ai prolongés, je ne les ai pas gardés 5 ans, j'ai tout de même bientôt 50 ans que j'ai des théâtres, davantage même. Donc j'ai toujours été attiré par la musique et c'était ma passion.
Alors justement, pour évoquer un petit peu ces goûts musicaux qui sont les vôtres, cher Pierre Cardin, je voudrais qu'on remonte un petit peu dans le temps et on va remonter au temps de vos toutes jeunes années en écoutant peut-être une musique qui évoque pour vous cette enfance mi-italienne, mi-parisienne. Éric Satie, joué par Francis Poulenc, un choix de mon invité aujourd'hui, Pierre Cardin. Je me demandais d'ailleurs, Pierre Cardin, puisque vous étiez déjà un jeune homme à la fin des années 30, à la grande époque du music hall, de Charles Trenet, tout ça, est-ce que vous écoutiez les chansons de l'époque?
Oui, Charles Trenet était le Johnny Hallyday du moment.
Oui.
Je, bien sûr, j'étais un fan, c'était le début du swing. Moi, j'étais le premier swing, j'étais un garçon très à la mode, très, très in.
Ah voilà, donc vous écoutiez les chansons.
Absolument, bien sûr, bien sûr.
Et l'orchestre de Réventura.
Réventura, bien même. J'habitais à Vichy à l'époque pendant la guerre. Donc Réventura venait avec tout son orchestre. Bien sûr, j'ai entendu Édith Piaf, Maurice Chevalier, tous ces gens, les amis Stinguette, en fait, tous ces jeunes gens-là, ça leur dit rien, si.
Oh, quand même, encore, on les connaît.
Enfin, j'allais beaucoup aux concerts, évidemment.
La musique a donc tout de suite beaucoup compté dans votre vie.
Oh, je crois que ça. Moi, j'étais pas très jazz, en réalité. C'était pas tellement ma formule. J'étais plutôt, bien sûr, mes classiques, je ne cite pas, vous les connaissez, tout le monde les connaît.
Mais vous vous êtes aussi tout de suite tourné vers le spectacle en faisant des décors pour Jean Cocteau, par exemple, et pour
J'ai
son
travaillé
film,
avec Jean Cocteau, oui.
La Belle et la Bête.
L'aigle à deux têtes, Édith Roy, enfin pas mal de choses avec Cocteau. J'ai eu la chance de commencer ma carrière avec Jean Cocteau.
C'est Jeanne Paquin qui vous l'avait présenté?
Non, c'est Philippe Heria.
Philippe Heria.
Qui était un écrivain, un académicien, qui était un de mes amis, qui m'a présenté, qui m'a fait connaître Jean Cocteau. Et puis comme j'étais à doublure de Jean Marais pendant le film La Belle et la Bête.
Ah oui.
D'abord, j'étais chez Paquin. Et chez Paquin, c'est la plus grande du monde. On était 800 employés.
Et quand vous avez commencé à devenir vous-même couturier, vous avez toujours aussi aimé le costume de scène, le costume de théâtre, le costume de soirée. C'est quelque chose qui vous a toujours...
Et comme j'avais une petite gueule, on voulait que je fasse du cinéma. Je voulais faire du cinéma, d'ailleurs, au départ, je voulais être acteur. J'ai joué avec Jeanne Moreau, vous savez, dans Jeanne la Française. Enfin, j'ai fait un peu de théâtre et de cinéma. Ouais. Mais finalement, mon métier m'a absorbé. J'ai Ma passion était la couleur, la matière, la forme,
Oui.
et puis les sujets qui étaient interprétés en biais par Pierre Cardin.
Eh bien, Jeanne Moreau, tiens, on va l'écouter justement.
Oui.
Jeanne Moreau, évidemment, personnage très proche de vous, Pierre Cardin. Quand vous l'avez connue, elle voyait toujours l'auteur de ses chansons, Rezvani.
Elle était très liée avec Rezvani, tout à fait, oui. D'ailleurs, certaines chansons de ses compositions, c'est Rezvani qui les a créées.
Oui.
Et on sortait ensemble à ce moment-là.
Vous sortiez ensemble. On peut dire que Jeanne Moreau a été la femme de votre vie?
Oui, pourquoi pas.
Oui.
J'ai un beau choix, non?
C'est un beau choix.
Oui, elle a bien choisi.
Ben oui, parce qu'elle dit dans une interview que c'est elle qui s'est jetée sur vous.
Oui, c'est vrai, on s'est rencontrés. Quand on se jette sur quelqu'un, on se rencontre.
Oui, bien sûr. Oui.
Non, Jeanne était une fille extraordinaire, différente des autres en tout cas. Et puis, la communication s'était très bien faite, donc il n'y avait pas de problème.
Vous avez quasiment vécu 4 années ensemble.
4 ans, ouais. Oui, c'est ça.
Et vous aimez ces chansons qu'elle a enregistrées?
Oh, c'est très poétique, les chansons de Jeanne étaient toujours une grande sensibilité. Hors mode, en somme, si on peut dire. C'était un peu hors mode, c'était pas dans des chansons populaire.
Bien sûr.
C'était raffiné, c'était fin, c'était sensible, c'était de qualité en réalité. C'est pas que les autres ne sont pas de qualité, mais je veux dire, elle avait une particularité.
Il y a une autre grande chanteuse et actrice immense que vous avez connue, en tout cas que vous avez produite à l'Espace Cardin, c'est Marlène Dietrich.
Oui, Marlène, je l'ai aimée 2 fois chanter.
Vous la connaissiez déjà?
Non, je l'admirais.
Vous l'admiriez?
Je ne connaissais pas, mais je l'admirais et j'ai tout fait pour la faire venir à Paris. Ça a duré 2 ans.
Ouais.
En correspondant. Oui, je viendrai, je ne sais pas. On verra plus tard, je suis engagé. C'était un combat de lettres, en tout cas. Finalement, elle a accepté à venir. Elle a été très, très insolente avec moi en arrivant parce que je l'admirais tellement que j'en étais ému avant d'arriver, enfin, signant le contrat.
Ouais.
Je lui rentre dans mon théâtre, elle me dit, mais habillée avec son imperméable noir, cirée, très serrée à la taille, son chapeau masculin, enfin cette caricature qu'elle avait en elle-même,
ouais,
d'une particularité très, très étonnante d'ailleurs. Et la première marche où elle rentre dans mon théâtre, elle dit « c'est pas un théâtre, c'est un cimetière ». Je veux dire que ça m'a un petit peu
refroidi.
Oui, parce que j'avais fait tout noir, noir et blanc. Je me suis dit, c'est comme ici, les placards sont noirs. Parce que j'ai pensé que le livre était en valeur maintenant, plein de choses noires.
Ouais.
Puis c'était ma hobby, le noir n'était pas la mode. Bon, un théâtre noir.
Ouais.
Moi qui suis italien, les théâtres rouges, je les connais. Vous pensez bien, étant italien, si je connais les théâtres, hein,
ouais, bien sûr.
Je les fais noirs, c'est qu'il y avait une volonté, en tout cas une raison.
Et ce tour de chant de Marlène, il est néanmoins resté légendaire. Hein.
Eh bien oui, parce que ça a été un triomphe. Elle n'avait jamais chanté à Paris, en tout cas dans mon théâtre. Et elle a eu un retour brillantissime. Les gens se battaient pour avoir des places.
Ouais.
Les gens étaient assis par terre. Il y a eu des bagarres avec les photographes. Enfin, ça a été dramatique. Et elle a tellement aimé que... Après, je vais vous raconter une petite anecdote. De tulle. Elle me dit, quel est ce tulle? Deuxième erreur. D'où vient-il? De Lille. Non, je ne veux pas du tulle de Lille. Je veux du tulle qui vient de Londres. Mais madame, voilà. Le tulle est français. Je vous ai dit de Londres. Donnez-moi l'adresse, je vais le faire acheter à Londres. Il n'y en avait plus. Alors, j'ai rien dit du tout. La personne me dit du magasin d'or. J'envoie quelqu'un de la maison. Elle me dit, non, mais on pourra le commander. On ira à Londres, on ira le commander au fabricant. Le fabricant était français. Donc, on est allé à Londres, j'ai acheté du tulle anglais, fabriqué en France. Voilà, alors je lui présente. Voilà, c'est ce tulle-là que je voulais, cette qualité-là. C'est celui qui venait d'Europe, mais qui était français, qui était venu du nord de la France, par Londres, Paris.
Pour revenir à Paris.
Je vais vous dire l'espèce de manière de penser de cette femme-là, qui était autoritaire. Voilà.
Vous l'avez donc habillée?
Je l'ai habillée, bien sûr. Oui,
seulement pour la scène ou aussi pour,
non,
pour la ville?
Non, pour la scène seulement. Enfin, on était devenus très amis à la fin de l'histoire, pour aller deux fois. Elle a tellement aimé chanter à l'Espace Carlin qu'elle a redemandé elle-même, alors cette fois-ci, de venir rechanter, ce que j'ai accepté. Et elle est revenue chanter une deuxième fois. Mais moi, j'ai toujours été, pas de marbre, mais respectueux. Elle m'avait offensé en disant que d'abord, je suis un cimetière, deuxièmement, que le tulle était de Londres, alors qu'il est de Paris. J'ai dit, la troisième fois, elle ne m'aura pas. Alors, quand elle s'est quittée, j'ai été servant, puisque j'étais son servant. J'ouvrais la porte. Je n'ai pas envoyé le chauffeur pour la remercier. Je suis allé moi-même la remercier. J'ai ouvert la porte comme un portier. Je lui ai dit, j'espère que vous êtes heureuse d'avoir chanté. Elle me dit, oui, ça a été un moment de ma vie très important. Je vous remercie. Je suis très heureuse. J'espère que je reviendrai encore. Elle n'est pas revenue, puisque elle est morte entre-temps.
Dans le sable du désert, sur les dunes de la mer, et tant pis si tu te perds, cherche la rose au lieu des puissons où on rêve de pardon, où se meurt une chanson, cherche la rose. Sous les mousses, les orties, dans les flaques de la pluie, sur les tombes qu'on oublie, cherche la rose. Sa triste les faubourgs, chez l'aveugle, chez le sourd, où la nuit rêve du jour, cherche la rose. Thank you. et battant tous les pavés. Si tu ne l'as point trouvé, tu l'auras au moins rêvé. Cherche la rose, cherche la rose.
Cherche la rose, Marlène Dietrich, un choix de mon invité Pierre Cardin, qui a fait tant pour le spectacle et pour la musique, autant presque que pour la couture. On revient un peu, Pierre Cardin, si vous voulez bien, justement, à cet espace Cardin, devenu légendaire dans la vie parisienne, que vous avez acquis en 1970. Faut rappeler que c'était déjà, d'ailleurs, un haut lieu de la chanson, puisque c'était un ancien café-concert des Champs-Élysées.
Hein. Bah, oui.
Voilà, les ambassadeurs.
Le théâtre des ambassadeurs, oui. Il y avait le théâtre au départ qui était construit sur les Champs-Élysées, puis ensuite en 28, je crois, ça a été construit le bâtiment
actuel.
Il s'est installé aux Champs-Élysées.
Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer ce théâtre? La concession avec la ville de Paris vous a été donnée à l'époque par... Il n'y avait pas encore de maire de Paris, mais ça c'est...
Si, il y avait la mairie qui l'a donné, bien sûr.
Oui.
J'ai succédé à Carcenti, qui lui a eu un problème de vie de famille. Il adorait son frère, qui était son associé. Malheureusement, il est mort d'un accident. Il ne voulait plus continuer à diriger des théâtres sans son frère.
Et vous aviez envie...
C'est moi qui suis allé lui demander... Et éventuellement, un jour, si vous voulez céder votre théâtre, sachez que je suis preneur. J'ai fait ça avec les ambassadeurs, qui étaient un ensemble de restauration.
Oui.
Et puis après, j'étais allé voir Carcenti. J'ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez vendre votre théâtre? Il m'a dit oui. Les deux en 8 jours. J'ai acheté les deux trucs en 8 jours.
Vous aviez envie de devenir directeur de théâtre?
C'est-à-dire, je rêvais d'être acteur. J'étais un peu acteur, d'ailleurs. J'étais un peu comme Cabotin.
Ah oui, donc faute d'être acteur, vous avez créé votre théâtre?
J'ai acheté mon théâtre, comme ça je pourrais jouer, mais je n'ai jamais joué dans mon théâtre.
Vous n'avez jamais joué sur la scène de l'Espace Cardin? Non. Alors, ce qui a été assez extraordinaire dans l'Espace Cardin, c'est que vous avez fait tout de suite une programmation très audacieuse, où il y avait à la fois du jazz moderne, de la musique contemporaine, des chanteurs à la mode, du théâtre, beaucoup de théâtre, mais des choses assez osées, assez recherchées.
La Chaussée sur l'Arc de Constance avec Jeanne Moreau, Delphine Seyri, avec Gérard Pardieu. C'est moi qui ai lancé Gérard Pardieu à Paris.
Mais c'est vous qui faisiez la programmation?
Absolument, c'est moi, oui.
Ah oui?
Oui.
Vous ne déléguiez pas...
J'avais Drigo près de moi, mais enfin, c'est moi qui décidais. C'est moi qui payais, il fallait bien que ce soit moi qui décide.
Bien sûr. Vous avez reçu également, d'ailleurs, il faut le dire, aux ambassadeurs, beaucoup de compositeurs modernes, et notamment un, je crois...
Quand on tient de Parmigiani, Ligeti, etc., et combien d'autres.
Oui, oui, et notamment un avec qui...
Marius Constant.
Voilà, avec qui vous aviez une longue amitié, c'est Marius
très
Constant.
Grand, oui, on s'est connus très à 20 ans ensemble avec Marius. Donc on a eu des relations très amicales avec sa femme Sonia également, qui était ballerine. Donc j'ai toujours eu un pied dans l'art, en somme, toujours.
Oui, oui.
Si ce n'est que la mode, évidemment, m'a happé complètement.
Vous voulez dire que vous aimez donc la musique moderne?
Moderne et puis classique. J'ai fait mes classiques, bien sûr, mais le moderne, vous savez, surtout le début du siècle.
Alors, il y a une autre musique moderne qui est pour nous indissociable de vous, Pierre Cardin. On va l'écouter tout de suite. C'est les Beatles en 1963.
Come on, come on, please, please me, whoa, yeah.
Please Please Me, les Beatles en 1963, les Beatles habillés par vous, Pierre Cardin. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec le groupe le plus légendaire de l'histoire de la pop?
Ça a été un hasard parce que je ne les connaissais pas en réalité. Ils sont venus me demander tout simplement.
Mais ils ne sont pas venus eux-mêmes?
Eux-mêmes, si, si.
Ah bon?
Ils sont venus avec leur directeur, bien sûr. À l'époque, c'était un événement, mais ils n'avaient pas la renommée d'aujourd'hui, il faut bien vous le dire. Il y avait les Rolling Stones en même temps.
Oui, bien sûr. Enfin,
que j'ai habillé après.
Comment vous avez imaginé ce costume avec ses vestes sans col, etc.
Il n'a rien de création, je veux dire. Rien.
Ah bon?
Il n'y a aucune créativité, c'est presque une copie, on peut dire.
Ah bon?
Chinoise, avec le col Mao.
Le col Mao de l'époque.
Donc ce n'était pas une création. On en a fait beaucoup de bruit, mais finalement, ce n'était pas grand-chose.
Ah oui, mais ça reste dans l'histoire.
On a fait beaucoup de choses avec les Beatles, oui, d'accord. Mais avec moi, je ne me considère pas être un créateur parce que j'ai fait les costumes des Beatles. C'est de l'interprétation, on peut dire.
Ce n'est pas le plus important de votre carrière.
Non, ce n'est pas le plus important. Eux, c'est important.
Oui. Alors, on a cité aussi donc Depardieu, qui a débuté à...
Je me suis sur le lac de Constance. Et avant, quatre pièces avec Duras, on a fait restaurer un Peter Anker.
On pourrait citer également Bob Wilson, qui a été présent.
Bob, c'est moi qui l'ai lancé, oui. Je l'avais piqué, si on peut dire, à Nancy.
Oui.
Chaque langue l'avait présenté dans son festival et... C'était ça, passait comme un spectacle habituel. Et moi, j'ai trouvé ça très étrange et très, très curieux, ce spectacle. La réalité de la vie, en somme.
Ouais.
Qui a duré 7 heures.
7 heures.
Je suis allé avec Aragon. Alors, c'est moi qui l'ai présenté à Aragon.
C'était dans votre période communiste
Non, j'ai toujours été capitaliste.
Ah non, d'accord.
J'ai tellement lutté pour travailler, pour être capitaliste. Quand on est pauvre, on a envie d'être riche, croyez-moi.
Mais vous étiez ami d'Aragon.
N'est-ce pas? C'est pas le cas? Il n'y a que les riches qui veulent être pauvres maintenant. Ils se déchirent comme les pauvres, avec des pantalons déchirés. Quand on ne pouvait pas s'acheter un pantalon, on ne voulait pas déchirer à l'époque. On voulait que ce soit proprement passé. Maintenant, ils sont sales et déchirés. C'est le même thème, sales et déchirés. Ça pourrait être une pièce de théâtre.
Je plaisante sur votre période communiste et votre amitié avec Aragon, parce qu'il faut quand même rappeler que vous avez aussi été le grand couturier français en Chine populaire et aussi en Union soviétique.
Absolument, oui.
Pour un capitaliste.
Essayez de comprendre pourquoi ils étaient capitalistes. Pourquoi. Moi, j'ai rêvé toute ma vie d'être riche.
Ouais.
Je ne comprenais pas quand on était pauvre, quand on voulait être encore plus pauvre.
Ouais.
C'est quand même bizarre, non? Mais tous rêvaient d'une rose, bien sûr. Mais ils la critiquaient, ils crachaient dessus même. Moi, j'avais une rose à l'époque. Quand on est jeune, on est très ambitieux, on veut des choses très extrêmes, très clinquantes, très, très voyantes, très, très promotionnelles, si on peut dire. Et un jour, il y a quelqu'un qui a ouvert ma porte de rose et qui a craché sur ma rose.
Ah oui.
Avec haine. Mais c'était seulement un communiste. Mais je l'ai très bien compris. J'ai dit, t'inquiète pas, un jour, tu auras de couleur à ta rose.
Mais la Chine de Mao, ça vous a pas fait un peu peur?
La Chine, je voulais aller en Chine pour savoir ce que c'était le paradis, en soi-disant.
Soi-disant, oui.
Je veux connaître le paradis avant d'y aller. Et c'est comme ça que j'allais au Japon, en Chine, en Corée, en tous les pays asiatiques, très jeune.
Alors on va écouter maintenant, si vous voulez bien, Pierre Cardin, un musicien que vous avez choisi, que vous aimez beaucoup, et qui d'ailleurs est très populaire aussi au Japon et dans tous ces pays-là, c'est Jean-Michel Jarre.
Oui, Jean-Michel Jarre, non, j'avais présenté sa chanson dans mon théâtre, pour défiler. J'avais choisi comme jeune musicien,
ouais.
Et ça a été un triomphe. C'est moi qui ai téléphoné à France Musique. Marius Constant était où, à France Musique?
À France Musique, absolument.
Je lui ai dit, il y a un talent merveilleux ici, j'aimerais que tu me ferais plaisir, je lui ai demandé une faveur. Tu me ferais plaisir si tu voulais passer sa musique à la radio. C'est ce qu'il a fait et qu'il a lancé en réalité.
Vous voulez dire...
Il avait été très jeune à l'époque.
Vous voulez dire, Pierre Cardin, que vous vous intéressiez de près à la musique de vos défilés?
Ah bien sûr, c'est moi qui choisissais.
Toujours? Ah oui?
Ah oui, toujours. Oui.
Ah oui. Oui. C'est quoi la règle pour une bonne musique de défilé?
C'est différente chaque fois.
Oui.
Pas prendre des thèmes très connus.
Oui, et ça c'est votre choix personnel.
Voilà.
We'll be right back.
Jean-Michel Jarre, un choix toujours de Pierre Cardin qui nous fait la joie d'être avec nous aujourd'hui. Pierre Cardin, qu'on ne présente pas, mais dont on ne sait pas forcément qu'il a été aussi un des grands mécènes de la musique, directeur de théâtre de l'Espace Cardin et directeur de festival, d'un festival qui fait beaucoup pour la musique aussi, au pays du Marquis de Sade, c'est le festival de Lacoste. Alors comment ça s'est commencé, cette aventure à Lacoste ?
J'ai eu la chance d'hériter du château du Marquis de Sade et il y avait une carrière. Et qui ressemblait à un forum, à un théâtre.
Vous l'avez acheté, le château?
Oui.
Volontairement?
On ne l'a pas donné, non, ça ne donne pas un château.
Mais c'était par admiration pour le Marquis de Sade?
Et non, même pas pour ça, c'était parce que le lieu me plaisait.
Oui. Et alors donc, cette carrière étonnante?
Cette carrière, j'en ai fait un théâtre.
Voilà.
Un grand amphithéâtre et j'ai présenté beaucoup de musique, c'est vrai.
De la musique, des concerts, du théâtre aussi également, hein?
Beaucoup de théâtre, j'ai monté plus de 50 pièces.
Oui.
En 15 ans.
Alors ça marche comment le festival de Lacoste? C'est vous là encore qui êtes le maître d'œuvre pour la programmation?
Oui.
Ouais.
Il y a des gens qui viennent me voir également, qui me disent écoutez, j'ai un spectacle à monter, est-ce que ça vous intéresserait?
Vous avez monté des opéras?
On a fait un peu de tout en réalité. Ouais. Du musical, de l'opéra, de la chanson, des chœurs, des.
Et le festival continue. Hein.
Il y a 1000 places quand même.
Oui, oui.
C'est-à-dire, si plus on a une réserve de 1000 places à l'intérieur. Il fait un lieu très, très facile. S'il y a des jeunes gens qui veulent ou des compositeurs qui ont envie de présenter leur spectacle, qu'ils puissent me contacter. Si le spectacle me convient, je serais ravi de les recevoir.
Vous y êtes toujours, donc, durant toute la durée du festival?
Ah ben ça va, mais c'est pour l'année suivante.
Oui, bien sûr, mais je voulais vous y aller chaque année, finalement. Oui. Et vous êtes un lyricomane, comme on dit, Pierre Cardin, vous allez beaucoup à l'opéra?
J'allais, oui. J'ai vu mes classiques italiens particulièrement ou allemands, mais j'ai plus le temps maintenant, je m'occupe de mes affaires.
Vous avez des goûts en matière de mise en scène?
Oh, j'ai pas la prétention d'être metteur en scène, je fais de la mise en scène pour la mode, donc je sais manipuler l'homme et la femme.
Oui.
Je connais les lumières, puis enfin pendant tellement longtemps directeur théâtre de Pierre Cardin, j'en ai vu des spectacles, on en a monté je ne sais combien, des dizaines et des dizaines.
Vous avez été triste que la concession du théâtre de Pierre Cardin s'arrête à la demande de la ville de Paris?
Oui, parce que j'ai quand même 50 ans de théâtre, 52 ans exactement, ouais. Puis qu'on me le prenne comme ça, comme si j'avais... Alors j'en ai fait une réputation.
bien sûr, mais sous quel prétexte il vous a été retiré alors?
Ils ont fermé les deux théâtres à Paris.
Le Châtelet en
particulier. Ils voulaient de la place pour faire des bureaux. Ah. Il y a tellement de bureaux libres à Paris,
ouais.
Qui auraient pu... Non, c'était un biais pour me mettre à la porte, je crois. Il y avait tellement de jalousie qu'un couturier qui a un théâtre, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il a qu'à
ses robes. C'est pas parti du sérail.
Non, voilà.
Ah oui.
Et maintenant, ils sont tous à genoux devant moi. Est-ce que vous pouvez prendre ma pièce? Est-ce que vous voulez que je juge pour vous?
On va écouter, Pierre Cardin, une musique que vous aimez particulièrement dans le répertoire d'opéra, c'est la Chevauchée des Valkyries.
Oui, très bien.
Thank you.
La Chevauchée des Valkyries, dirigée par Georg Solti, un choix de Pierre Cardin qui est avec nous aujourd'hui. Pierre Cardin, vous nous disiez au début de cet entretien votre passion pour la comédie musicale, que vous êtes allé voir beaucoup à Londres et à New York.
New York, surtout, oui.
Y a des œuvres qui vous ont particulièrement marqué dans ce
genre-là ? Pratiquement, j'ai vu pas mal de comédies musicales à New York, oui.
Oui.
Depuis West Side Story jusqu'à toutes les comédies qui sont données, et moins à Paris, parce qu'on n'en a pas tellement donné à Paris.
Voilà, on en a donné un peu ces dernières années au Châtelet, justement, par exemple, mais vous-même...
Oui, mais ça c'est de la copie,
oui.
Pas de la création.
Oui, on est d'accord. Enfin,
c'est de l'interprétation.
Oui, Sondheim en particulier.
J'y suis allé, évidemment, à Paris également. Et moi, j'avais vu les origines, enfin au départ, je vais en Amérique depuis 1950, alors regardez s'il y a des années qui ont passé.
Et vous-même, alors vous vous êtes associé comme directeur, mais aussi comme costumier à quelques productions de comédie musicale, notamment dans votre propre théâtre, à l'Espace Pierre Cardin, en 2001 par exemple, Tristan et Isolde.
Oui, j'ai monté des comédies musicales chez moi.
Oui.
Évidemment, j'ai fait des costumes, ça c'est évident. Oui.
Vous vous rappelez ce Tristan et Isolde ?
Oui, bien sûr, Tristan, veux-tu m'ouvrir tes bras ?
Voilà, mis en scène par Thierry Harcourt. C'était...
Thierry Harcourt, absolument, qui avait monté un spectacle chez moi également. De Oscar Wilde.
Et aujourd'hui, vous avez encore des projets dans ce domaine ?
Oui, bien sûr.
Expliquez-nous un peu.
Marlène Dietrich, comédie musicale.
Ah ben justement, on y revient alors.
Oui, c'est donné à Miami, que j'ai monté à Miami, et que je vais monter à Los Angeles et à Las Vegas.
Et alors là, vous êtes le producteur ?
Producteur, financier, c'est moi qui ai engagé les metteurs en scène, l'écriture, tout. Je fais tout moi-même ou rien du tout.
Ah, c'est toujours comme ça.
Ah, moi, c'est toujours comme ça. Ou je fais ou je ne fais pas. Je ne vais pas partager.
Mais c'est...
Même si c'est mauvais, on dira, moi, c'est moi le responsable.
Mais c'est cette suractivité qui vous maintient tellement alerte.
Oui, qui me donne tellement de courage et de force et de volonté.
Parce que c'est fascinant, oui, d'avoir traversé comme ça
j'ai
presque
bien tout 100 ans, vous
siècle.
Savez, alors j'en ai connu des aventures.
Vous en avez connu et vous êtes pour ça tout à fait extraordinaire.
J'ai rencontré quand même des gens très brillants, vous savez, dans ma carrière, donc ça m'a beaucoup aidé.
On va écouter un extrait justement de cette comédie musicale Tristan et Isolde que vous avez choisi, une des chansons de cette création de l'Espace Cardin en 2001.
Je suis esclave d'un incendie, de cette lave qui coule dans mes veines. Par un élixir asservi, de qui suis-je reine? L'Irlande danse encore dans les brumes. Mon nouveau royaume est si loin. Je ne sais plus ce qu'est ma vie, rêve ou chagrin. Tristan, peux-tu m'ouvrir tes bras? Je peux
du roi marqué de mes serments. Mon âme est aux mains d'un diable, mon cœur est en sang. Le ciel de cette nuit de Saint-Jean peint des larmes d'or à tes yeux. Je ne sais plus ce qu'est ma vie, cendre ou bien feu. Peux-tu m'ouvrir tes bras? Je peux mourir pour être à toi. Isolde, je suis parjure à mon roi. Je veux mourir, mais être à toi.
La mer qui berce nos serments a des reflets de
étoile de cristal blanc veille sur la nuit. Nos cœurs se bâtissent un destin, conjugue amour et infini. On ne sait plus ce qu'est la vie, ça joue folie.
Pierre Cardin, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. On doit évoquer aussi dans votre activité de mécène et d'ami des arts le fait que vous êtes entré en 1992 à l'Académie des Beaux-Arts. Et je crois que vous êtes très actif, très présent dans la vie de cette maison.
Oui, j'y vais régulièrement. À partir du moment où j'ai choisi d'y aller,
voilà.
Je me dois le respect de m'y rendre tous les mercredis.
Ah oui, vous ne faites pas partie de ces académiciens qui ne viennent
non,
pas.
Non, le titre ne m'intéressait pas. Bien sûr, je suis très honoré d'être académicien. C'est quand même le prix le plus important, français en tout cas.
Bien sûr. Vous avez dessiné vous-même votre épée.
Ah, ben évidemment. C'était évidemment. Et mon costume aussi.
Mais l'habit vert, vous l'aimez?
Eh bien, écoutez, je le porte pas mal.
Ah, parce que chaque habit vert est dessiné différemment.
La couleur peut changer, même le petit dessin également, oui.
Ah, voilà.
Enfin, c'est très proche, hein.
En tout cas, je sais que vous êtes effectivement, oui, très actif dans toutes ces activités.
J'y vais régulièrement, oui, je me plaide. On n'est pas jeune. J'étais le plus jeune quand je suis rentré, il y a 21 ans.
Et vous serez bientôt le plus âgé.
Je suis le plus vieux.
Vous êtes le plus âgé.
Oui, ça m'a donné des ailes.
Voilà, vous êtes le doyen, donc c'est très chic.
Non, c'est très honorable de me poser cette question-là, parce que j'ai de la fierté, c'est d'être académicien.
Alors, on va vous laisser, Pierre Cardin, mais d'abord, vous remercier de nous avoir reçus. Et puis, j'ai choisi, parmi toutes les chansons que vous nous avez proposées avant de nous quitter, une chanteuse italienne, justement, ça nous ramène à votre naissance, vous qui êtes née en Italie, qui s'appelle Mina.
Mina, oui, Mina.
Parlez-nous un peu de Mina.
Eh bien, elle est très discrète, Mina. Elle ne veut pas qu'on la voit. Elle était speakerine à la télévision italienne avant.
Ouais. Vous la connaissez bien?
Non, je ne la connais pas. Je l'admire.
L'admirez simplement.
C'est un peu une Marlène abstraite.
Voilà, une très jolie chanson en tout cas que j'ai découvert grâce à vous et sur laquelle nous allons nous quitter en vous souhaitant une belle activité au service des arts comme ça a été le cas toute votre vie, Pierre Cardin.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
Et j'espère à bientôt.
Спиня та джу. adesso volta la faccia. Questa è l'ultima volta che lo lascio morire. E poi ha talento da grande lui nel fare l'amore, sa pigliare il mio cuore. E poi, e poi, e poi, e poi ha il volto sconvolto.
L'importante est finire. C'était la chanteuse Mina en 1977. Mina, chanteuse italienne chère à Pierre Cardin, qui, nous l'avons vu, est né lui-même en Italie et qui était ce matin mon invité. J'en profite donc pour vous donner quelques actualités liées justement à Pierre Cardin. Et d'abord, si vous voulez découvrir la maison Maxime, justement ce légendaire restaurant parisien, tous les lundis à 20h au petit théâtre de Maxime. Vous avez ces spectacles qu'on a évoqués, ces spectacles de Gérard Chambre, qui a monté des divertissements sur Offenbach, sur la chanson, sur d'autres sujets. Et en ce moment, c'est un spectacle qui s'appelle Parlez-moi d'amour au lit, chez Maxime. Donc tous les lundis à 20h, à l'exception des lundis 30 avril et 28 mai, c'est chez Maxime à Paris. Et puis cet été, eh bien, le Festival de Lacoste, le Festival de Pierre Cardin, ce sera aussi l'occasion de découvrir dans le Luberon un certain nombre de spectacles, un spectacle sur Joséphine Baker par Ève Ruggieri, un spectacle de Gérard Chambre encore, qui est donc l'habitué de chez Maxime's, mais aussi dans un genre plus classique, un récital de Jakub Józef Orliński au château de Lacoste, ou encore La voix humaine de Jean Cocteau par Caroline Casadesus. C'est du 16 au 25 juillet à Lacoste, les musicales du Luberon. Si même vous voyagez aux États-Unis, à Atlanta, il y a une immense rétrospective Pierre Cardin à découvrir. Et puis je finirai, tiens, avec le message d'un de nos auditeurs arrivé pendant l'émission. Je ne sais si vous allez l'évoquer lors de votre émission, mais Pierre Cardin avait édité à la fin des années 70, début 80, une série de vinyles de jazz blues absolument fantastique, tant dans le choix des musiciens et morceaux que dans la qualité des enregistrements, le tout à un prix très abordable de 20 francs. Merci à monsieur Cardin, bien musique cordialement à toutes les équipes de France Musique.
Thank you.
Manfred Honeck à la tête de l'Orchestre Symphonique de Vienne dans cette superbe valse intitulée « Les filles de Vienne », une composition de Karl Michael Zierer, illustre compositeur viennois né en 1843 et mort en 1922.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et avant de retrouver Serge Laïc, je voudrais également vous annoncer un concert qui aura lieu demain, dimanche 22 avril, au Forum Léo Ferré à Ivry avec notre ami David Gis, qui fut longtemps producteur à France Musique, qui est compositeur proche du monde de l'avant-garde musicale, mais qui a commencé finalement comme chanteur de chansons en duo avec Dominique Marge. C'était un duo qui s'appelait David et Dominique et a enregistré un certain nombre de disques dans les années 60 et 70, comme par exemple cette ravissante Juliette de 1969.
Je n'ai ni Jaguar ni Alfa Romeo. Juliette, tu le sais, mais tu m'aimes quand même. Je n'ai ni Jaguar ni Alfa Romeo. Juliette, je le sais. On a deux vélos. Moyennant quelque argent et de jolis sourires, on a emménagé près d'un nid d'hirondelles. À bien y réfléchir, on eût pu trouver pire, grimper sans ascenseur jusqu'au septième ciel. Je n'ai ni Jaguar ni Alfa Romeo. Juliette,
je le sais, mais je t'aime quand même.
Je n'ai ni Jaguar ni Alfa Romeo.
Je le sais,
mais on a deux vélos.
Le soir au coin de l'île, on fait des rêves tendres, s'imaginant le temps où l'on aura de l'or pour acheter la terre et venir de là-bas avec ses amours tristes. Chez nous, il n'y en aura pas.
Je n'ai ni Jaguar ni Alfa Romeo.
Je t'aime quand même.
Je n'ai ni Jaguar ni Alfa Romeo. Juliette,
je le sais, mais on a deux vélos.
Et bien qu'il fasse froid, qu'il pleuve sur nos têtes, tu dois être un soleil qui réchauffe les toits. Car c'est obstinément que nos amis s'entêtent à venir boire un verre à la santé de toi. Car c'est obstinément que nos amis s'entêtent à venir boire un verre à la santé de toi. Je n'ai ni Jaguar ni Alfa Romeo. Juliette,
je le sais, mais je t'aime quand même.
Je n'ai ni Jaguar ni Alfa Romeo. Juliette,
je le sais.
David et Dominique en 1969 avec l'orchestre Armand Mignani. Et ça, c'était donc David Gis qui chantait et que vous pourrez retrouver. Il a fait beaucoup de choses depuis, je vous l'ai dit, comme compositeur, proche de Luc Ferrari, notamment animateur de la Muse en circuit. Mais aujourd'hui, il revient à sa façon, à la chanson, dans ce programme. Demain, dimanche 22 avril à 17h au Forum Léo Ferré d'Ivry-sur-Seine, il sera avec Nathalie Fortin et Michel Ris dans ce spectacle intitulé « Détour de chant ». Vous trouvez tous les renseignements sur le site de France Musique. Et puis sinon, vous n'avez qu'à lire les journaux.
De gens vous importunent avec des si, des comment. Ils tombent toujours de la lune, ignorent tous des événements. On paye 15% depuis combien de temps? Quel est le nom du président? C'est Yvrec Sorel dans la nuit de Noël, abusa de Fernandel. Quand ainsi on m'ennuie, je réponds à l'abruti: tu ne lis donc pas les journaux, espèce d'imbécile. Tu ne lis donc pas les journaux, espèce d'idiot. Si tu lisais les journaux, ce serait facile. Tu saurais tout aussitôt le fin du fin mot. lorsque Noé sur son arche vit poindre le mont Arara, un des fils du patriarche se mit à crier papa. On arrive enfin, mais je ne vois pas bien, c'est-il le mont Valérien, c'est-il le mont Ventoux, c'est-il le mont Retoux, ou le mont là-dessus, c'est plus doux. Énervé, le père Noé répondit à son salé, tu n'y donc pas les journaux, espèce d'imbécile, tu n'y donc pas les journaux, espèce d'idiot. Tous les prochains numéros tirent à 100 000, les détails y seront en gros avec photo. Je rencontre l'ami Jules, triste comme un bolet de nuit. Il me dit sans préambule, ce qui m'arrive est inouï. J'apprends subitement que depuis un an, ma femme a plusieurs amants. Un flic, un boxeur, un marchand de couleurs, un fabricant de sécateurs. J'ai rien su, qu'en penses-tu? J'ai répondu au cocu, tu n'y donc pas les journaux, espèce d'imbécile. Tu n'y donc pas les journaux, espèce d'idiot. On publia des échos en temps utile. Je crois même qu'il y en a de nouveaux depuis tantôt. Oh oh. Göring la semaine dernière, à Goebbels dit faut se bouger. Une rumeur passe nos frontières, le régime est en danger. À Prague-Charlie, à Vienne on s'aigrit, on nous est à Varsovie. On dit que nous manquons de beurre de charbon, en un mot que nous la claquons. C'est pas vrai, Claude lui fait, au contraire tout est parfait. Tu n'y donc pas les journaux, espèce d'imbécile. Göring l'arrête aussitôt, espèce d'idiot. Sais-tu ce qu'on fait de nos journaux, je te le donne en mille. Ils servent dans les lavabos, en petits morceaux. Hey.
Si vous voulez tout savoir sur les amants de votre femme, vous n'avez qu'à lire le journal. C'est ce que disait Georgius à l'époque. Nous, on pourrait dire, vous n'avez qu'à aller sur Internet. C'est un petit peu pareil, Georgius, en 1940, avec l'orchestre de Pierre Chagnon. Mais sans plus tarder, on retrouve Serge Elaïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Avec quelques musiques divertissantes.
Et oui, et le train est vraiment à l'honneur ces dernières semaines, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Alors à mon tour de célébrer la musique en musique de divertissement, eh bien le train. Et à tout seigneur, tout honneur, Percy Faith ouvre le bal, c'est une véritable star parmi les grands orchestres internationaux. Et c'est au début des années 50 qui est engagé par le label américain Columbia. Il signe alors d'innombrables albums instrumentaux dans un style tout à fait personnel, comme cette adaptation de This Train, ce train.
Thank you.
oui, on suit bien le rythme de la locomotive avec This Train de Percy Faith, un des rois de la musique symphonique légère ici.
Tout à fait.
Donc en 1964, avec en plus pour moi la pochette d'époque, comme toujours avec vous, mon cher Serge Elaïc.
Eh bien, après les États-Unis, d'un saut, nous nous retrouvons en Autriche, dans le train de plaisir, mis en musique par Johannes Rost Junior. C'est une polka qu'il avait écrite en 1864, bien sûr, inspirée par l'ouverture de la ligne de chemin de fer reliant Vienne à Graz, seconde ville du pays située dans le sud. Et c'est Maris Jansons qui dirige l'Orchestre Philharmonique de Vienne lors du concert du Nouvel An en 2016. Vous vous en souvenez sûrement, Benoît.
Johann Strauss fils, train de plaisir donc par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Maris Jansons. C'était au cours du concert du Nouvel An 2016. J'y étais, si j'ose dire, mon cher Serge Elaïc.
Alors, c'est en trolley, je vais vous étonner, Benoît, que nous poursuivons notre voyage, véhicule électrique roulant sur pneumatique que l'on pouvait apercevoir en 1944 dans le film Le Chant du Missouri. Judy Garland y interprétait cette chanson du trolley, dont la musique a été reprise par d'innombrables artistes, entre autres par le renommé chef allemand Werner Müller. Il eut un émule de taille en la personne du grand chef d'orchestre français Paul Mauria, qui nous dit son admiration pour Werner Müller.
Je l'ai non seulement apprécié, je l'ai copié. Et pour moi, ce gars-là a été un des plus grands orchestrateurs de tous les temps. C'est le top, vraiment, une révélation. Il m'a appris ce que c'était que l'orchestration intelligente, c'est-à-dire où on remarque quelque chose.
Thank you.
The Trolley Song, enregistré par l'orchestre de Werner Müller. On a entendu juste avant l'éloge donc de ce grand chef d'orchestre allemand par Paul Moria.
Alors, le train a inspiré la fameuse Agatha Christie avec son célèbre roman Le Crime de l'Orient Express, dont est tiré le film de Sidney Lumet en 1974, et la bande originale de cette production était signée par le Britannique Richard Rodney Bennett, reconnu mondialement avec cette musique.
La musique du Crime de l'Orient Express, alors version 74, il y en a une pas mal non plus qui est sortie l'an dernier. Là, c'était Richard Rodney Bennett avec un orchestre dirigé par Marcus Dodds. Tout cela présenté par Serge Elaïc.
Et alors, nous terminons notre périple avec Orange Blossom Special, l'un des standards les plus connus de la musique bluegrass. Cette musique fut inspirée par le train de luxe du même nom, reliant de 1927 à 1953 New York à Miami. Et c'est Félix Slatkin et ses Cordes Fantastiques qui interprètent ce morceau. L'un de ses fils est le renommé Leonard Slatkin, actuellement chef de l'Orchestre National de Lyon en France. Donc.
Thank you.
Et oui, on la voit, hein, la machine à vapeur, The Orange Blossom Special, par l'orchestre de Félix Slatkin, une musique de 1962. Merci beaucoup, Serge Laïc.
Merci à vous, Benoît.
On vous retrouve, comme chaque mois, pour une prochaine chronique de musique légère.
À bientôt.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier. Aujourd'hui, à la technique, José Bernays avec Jean-Paul Lafavergès. Réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, ce sera un spécial Henri Betti, le compositeur entre autres de C'est si bon et aussi de nombreuses opérettes. Je recevrai son fils François Betti et son petit-fils Olivier Betti. Bon week-end à tous sur France Musique. Vous retrouvez maintenant Philippe Venturini.
À réécouter sur francemusique.fr.